On me demande de préciser l'objet de l'apologétique. Alors, je précise que c'est comme, et on me demande si c'est une condition nécessaire à la théologie, une propédeutique à la doctrina sacra, c'est vrai qu'il y a une analogie avec le point de vue de la critique. Alors, la critique peut être à la fois une propédeutique et peut être à la fois une conséquence. La sagesse demande la critique, réclame l'aspect de la critique. C'est propre à la sagesse de se critiquer elle-même, d'avoir cette auto-lucidité suffisante pour se critiquer elle-même. Le propre de la... Alors, vous voyez, l'apologétique n'est pas tout à fait la même chose que la critique, puisque il faut voir que l'apologétique se situe en dehors de la foi, pour montrer comment l'intelligence humaine peut arriver, sans qu'il y ait de contradiction, à pouvoir affirmer certaines données de la foi. Mais elle est en dehors, c'est la démarche de l'intelligence, pour elle-même, orientée extrinsèquement par la foi. Premier cours que j'ai donné de théologie au Sautoir, c'était un cours d'apologétique. Et alors, le cours d'apologétique, c'était ce qu'on appelait à ce moment-là l'apologétique du père Poulpiquet. C'était le fourre-tout, comme on dit. On mettait tout dedans. Alors, c'est vrai que l'apologétique, c'est très difficile. Qu'est-ce que ça correspond exactement? Je crois qu'on a une grande apologétique dans ce que dit saint Thomas dans Contra Gentiles. C'est vraiment une grande apologétique. Montrer tout ce que l'intelligence humaine peut atteindre. Et extrinsèquement, vous voyez, alors évidemment, l'apologétique de saint Thomas se termine par un aspect qui, de fait, n'est plus de l'apologétique. L'intelligence, alors, est orientée par le point de vue de la foi. Mais dans une apologétique, la foi est extrinsèque, alors que dans la théologie, la foi est intrinsèque. Je crois que c'est ça qu'il ferait mieux comprendre. La foi devient une norme extérieure pour l'apologétique, alors qu'elle détermine et qu'elle spécifie la connaissance théologique. Vous voyez ? C'est une drôle d'histoire, l'apologétique. Alors, continuons cette petite remarque intéressante au point de vue de Pannenberg à propos de ce que représente une christologie d'en haut. Deuxième remarque. Hein. Une christologie, donc les trois raisons nous interdisent de suivre cette méthode. Une christologie, la deuxième raison, une christologie qui part de la divinité du Logos et qui ne voit de problème que dans l'union de Dieu et de l'homme en Jésus, parvient difficilement à reconnaître l'importance capitale qui s'attache aux traits particuliers de l'homme historique réel, Jésus de Nazareth. On ne voit pas pourquoi. Que de fait, certaines christologies, trop dans la perspective d'Alexandrie, risquent de ne plus voir suffisamment l'homme concret. Oui, mais ça c'est parce que elles ne sont pas assez bien faites. Parce que regarder dans la lumière du Logos l'homme qui est assumé dans un mystère de l'union hypostatique, ça n'enlève rien à la lumière que nous avons sur l'homme. Au contraire, c'est comme si on disait que Dieu ne peut pas regarder l'homme concrètement. Il ne peut le regarder d'une façon abstraite. Et c'est très intéressant ces choses-là, parce que ça montre les erreurs de foi qui sont sous-jacentes. La foi est une connaissance divine. Si la foi est une connaissance divine, la foi est au-delà de la distinction que nous faisons, nous, entre abstrait et concret. C'est bien évident. Elle a un mode humain qui fait qu'il y a un mode abstrait, mais dans sa lumière, elle est au-dessus. Et donc, elle doit regarder dans le Christ l'homme existant d'une existence divine dans tout ce qu'il a de plus concret. Donc, parvient difficilement à reconnaître l'importance capitale qui s'attache au trait particulier de l'homme historique réel, Jésus de Nazareth. Les rapports multiples de Jésus avec le judaïsme contemporain, dont la connaissance est essentielle pour comprendre la carrière et le message de Jésus. Vous voyez les petites remarques qu'on peut faire, hein, encore là. Confusion entre le conditionnement et la finalité. Partie du conditionnement, ça ne fait pas partie de la divinité du Christ et du caractère de la finalité même du Christ. Les rapports multiples de Jésus avec le judaïsme contemporain, dont la connaissance est essentielle pour comprendre la carrière et le message de Jésus, doivent paraître d'importance secondaire à une telle christologie, puisque nous disons que c'est un conditionnement. Alors je suis tout à fait d'accord, c'est d'un caractère secondaire, mais essentiel. C'est essentiel, mais c'est secondaire. Il faut distinguer les deux. Là, il y a une opposition entre les deux, donc je ne suis pas d'accord. Doivent paraître d'importance secondaire à une telle christologie, même si elle est capable de parler des fonctions de Jésus comme de son abaissement et de son exaltation. De fait, si l'on peut déjà savoir par avance, a priori, hein, comprenez bien, par avance, a priori, mais un a priori de la foi qui n'est pas un a priori pour le croyant. De fait, si l'on peut déjà savoir par avance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ses rapports avec le judaïsme contemporain ne sont pas, pour les questions christologiques, fondamentales, d'un tel intérêt. Le seul point important reste alors la participation du Logos à tout ce qui est humain en général, parce qu'en dépend réciproquement, par Jésus, notre participation d'homme à la divinité. La singularité de Jésus, par contre, ne peut avoir ici d'importance décisive, exception faite de sa mort comme rançon pour les péchés. Mais le problème de la mort de Jésus lui-même semble d'une certaine façon secondaire dans cette perspective. C'est très intéressant, vous voyez, ce serait très intéressant à analyser de très près, parce que je crois que ça montre bien toute une perspective d'une théologie, la théologie traditionnelle, il l'a montré que c'était la théologie la plus traditionnelle, vous voyez, qu'on ne peut pas entrer dedans. Mettez-vous dans sa perspective, il est sûrement honnête en disant ça, vous voyez, il est sincère, il essaie de comprendre. Alors, une théologie comme celle de saint Thomas, ou une théologie comme celle de avant saint Thomas, mais dans la même perspective, c'est-à-dire partant de la foi, semble un a priori. La foi devient un a priori. Si la foi devient un a priori, c'est plus la foi. La foi ne peut être un a priori que pour le philosophe, mais pas pour le croyant. Pour le croyant, la foi n'est pas un a priori, puisque c'est ce qui le constitue croyant. Alors, ce n'est plus un a priori, c'est tout simplement le fait de vivre dans une lumière qu'on sait très bien, qui n'est pas la nôtre et qui est une lumière divine donnée gratuitement. Mais ce n'est pas un a priori. Tandis que là, c'est vu tout à fait comme un a priori. Vous voyez, je me placerai dans une perspective purement philosophique. On pourrait dire ça. Une critique, oui, mais on n'a pas le droit, puisque le philosophe, par définition, ne connaît pas ce que c'est que la foi. Il dit « Ah, je ne comprends pas ». Ça, il a le droit de dire ça. Un philosophe aurait le droit de dire, en lisant un traité de christologie d'en haut, dire « Je ne comprends rien du tout ». Il a le droit de dire « Je ne comprends rien du tout », puisque justement, tout ne devient intelligible que grâce à la foi. Si la foi est mise entre parenthèses, c'est plus intelligible. Mais c'est très intéressant, ça vaut la peine d'être médité, je n'ai pas le temps avec vous de regarder chaque moment, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine que c'est une position intelligente qui dit clairement les obstacles de ce que représente le point de vue d'une théologie, d'une christologie d'en haut. Mais le problème de la mort de Jésus lui-même semble d'une certaine façon secondaire dans cette perspective. On verra dans saint Thomas si c'est secondaire. Il porte surtout ici sur la question de savoir pourquoi l'homme assumé par Dieu a néanmoins été soumis au destin de mort commun à tout le genre humain. C'est pas ça. C'est pas du tout ça le problème. C'est tout à fait la mission de Jésus, c'est ça le problème. C'est bien évident. Ces indications peuvent provisoirement suffire pour justifier notre affirmation que dans une christologie d'en haut, l'homme historique Jésus n'est pas vraiment envisagé dans sa particularité. Soulignons encore que même le rapport de Jésus avec Israël et avec l'Ancien Testament ne peut pas être, pour une christologie partant de l'idée d'incarnation, tellement essentielle qu'elle ne puisse exister sans lui. Ça ne demande pas de commentaires, c'est intéressant parce que c'est toutes les idées que vous voyez aujourd'hui constamment promulguées. Alors, c'est intéressant de les voir à leur origine, vous voyez, de les voir dans cette perspective. La dernière raison pour laquelle une christologie d'en haut nous reste interdite et qu'on devrait se placer au point de vue de Dieu même, pour suivre le chemin du Fils de Dieu dans le monde. C'est vrai, c'est le propre de la foi, c'est le privilège du croyant. Le croyant, il a le privilège de regarder comme Dieu regarde. Alors, profitons-en. C'est ça la foi. Autrement, la foi ne signifie rien. La foi, c'est regarder les choses dans la lumière de Dieu. Puisque c'est la lumière de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la raison formelle de la foi, hein ? La raison formelle de la foi, c'est Dieu. La vérité première, révélance. Donc c'est la vérité première qui se révèle et qui donne sa lumière. La dernière raison pour laquelle une christologie d'en haut nous reste interdite est qu'on devrait se placer au point de vue de Dieu même pour suivre le chemin du Fils de Dieu dans le monde. Or en fait, nous pensons toujours à partir d'une situation humaine historiquement déterminée. Nous ne pouvons pas en sauter simplement les frontières. Notre point de départ doit donc être l'interrogation sur l'homme Jésus. C'est seulement par cette voie qu'on peut s'enquérir de sa divinité. Oui, donc le télescopage de la foi, je crois. C'est une apologétique qui nous conduit à cela, et au fond, c'est la conclusion qui nous permet de dire que Jésus est Fils de Dieu. Comment pourrait-on concevoir le Logos divin, la deuxième personne de la Trinité, en faisant abstraction de l'incarnation et donc de l'homme Jésus ? Cela échappe complètement à notre pensée. Alors, ça c'est dit avec netteté, hein, je crois. Page 32, hein, vous pourrez regarder ça paisiblement. Pas trop, parce qu'il ne faut pas trop s'enfoncer dans les choses secondaires. Là, je dis que c'est une chose secondaire. C'est une chose intéressante pour comprendre toutes les erreurs diffuses dans notre monde d'aujourd'hui. Je vous affirme qu'elles sont toutes là. Toutes les erreurs diffuses. Elles sont vraiment là présentes. C'est ça qui est intéressant. Parce que toujours intéressant d'essayer de saisir à partir de quel moment certaines erreurs ont été diffusées et comment certaines erreurs peuvent être répétées sans qu'on sache très bien exactement. Voyons, c'est toujours le point de vue du Christ historique, le Christ pris concrètement, le Christ avec ses rapports avec le judaïsme, toutes ces choses-là qu'on dit. Mais vous voyez, toute une christologie scientifique ne nous dit rien de tout ça. C'est vrai. Notamment, ne se pose pas tellement ces problèmes-là. C'est très vrai. Alors, justement, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une christologie scientifique. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas autre chose qu'une christologie scientifique, je vous l'ai dit. Il y a tout l'aspect biblique, économie de Dieu, où on est très proche de l'Écriture, Et quand vous êtes très proche de l'écriture, vous devez vous demander toute la question de l'enfance de Jésus. Alors saint Thomas parle bien de la vie, mais vous verrez comment. C'est peut-être là où il faudra essayer de préciser certains aspects qui seraient intéressants à voir. Bien que nous refusions une christologie d'en haut, nous parlerons cependant plus loin de la légitimité relative de cette manière de poser le problème. Légitimité qu'il faut concéder aux époques antérieures de l'Église et de l'histoire de la théologie. Ah, vous voyez le petit hegélien qui apparaît, hein ? Ça, c'est très net. Le devenir dans la théologie. Donc ce qui était vrai à un moment donné n'est plus vrai à notre époque, puisque de fait, on a fait des progrès sensationnels du côté historique. Alors ayant fait ces progrès sensationnels du côté historique, il y a nécessairement quelque chose qui est différent. Alors, c'est tous les rapports entre le point de vue de l'histoire et de la foi. C'est très important, ça soulève des problèmes très délicats. Hein. Je le fais rapidement comme ça, mais ça soulève des problèmes très délicats. On ne peut affirmer que la christologie de l'incarnation, qui domine l'histoire du développement doctrinal de la christologie, ait été simplement une erreur. Heureusement. Il n'empêche que la réalité historique de Jésus s'y est souvent trouvée réduite de façon extrême. On est d'accord là-dessus dans, vous voyez, la scolastique décadente, vous voyez. Et c'est vrai, ça, c'est très vrai. Or, de fait, c'est un peu le contact qu'il a eu avec toute une christologie dite catholique ou une christologie de Karl Barth. Il faut reconnaître, ça, c'est très vrai. C'est pour ça que c'est si important de voir que la théologie scientifique ne dit pas tout. Elle dit quelque chose qu'elle doit dire, mais elle ne dit pas tout. Et c'est dans la mesure où on a tout ramené la théologie à la théologie scientifique de saint Thomas que, de fait, je comprends très bien certaines oppositions un peu farouches. Nous l'avions vu pour la philosophie, on le voit pour la théologie. Et c'est vrai, on voit très bien que certains aspects qui ont été un peu télescopés. Hein. Donc il n'empêche que la réalité historique de Jésus s'y trouve souvent réduite de façon extrême. Il faut aujourd'hui en faire fructifier de nouveau la richesse et la diversité. La légitimité d'une christologie d'en bas, alors maintenant nous y sommes, hein, qui part de la question concernant la réalité historique de Jésus, a été récemment contestée par Weber. Weber estime que la condition d'une pensée d'en bas est l'ouverture du bas de l'existence humaine en général à l'en haut divin. Personne ne peut passer d'un bas, en quelque sorte. Il faut bien le comprendre, c'est comme l'étang. Vous savez. Ici, c'est le bas. Personne ne peut passer d'un bas, en quelque sorte donné d'avance, à un haut, sans tenir ce dernier pour également donné, au moins en puissance, dans ou avec ce bas. Vous voyez, ça c'est toute la question de l'apologétique par rapport à la foi. Pouvez-vous passer de l'homme existant à l'affirmation « Jésus est Dieu » ? C'est la position qui est montrée, hein. Je ne peux y passer que si déjà le haut est dans le bas. Si le haut n'est pas actuellement dans le bas, mais implicitement, je ne peux pas. Enfin, c'est ce qu'on dirait, c'est on passe de l'implicite à l'explicite. Alors si on passe de l'implicite à l'explicite, il est cependant en acte, mais implicitement. Or, pour qu'il soit en acte, il faut le saisir par la foi. Ne pas saisir la divinité du Christ en dehors de la foi. Impossible. Je ne peux pas le saisir historiquement. Ça échappe. Je ne peux le saisir que par la foi. Weber donne ici, au bas, une valeur générale, sans considérer la singularité historique de l'homme Jésus. Voilà comment il va essayer de s'en sortir. Hein ? Alors, soulignez bien la singularité historique de l'homme Jésus. Autrement, il ne pourrait pas prétendre que par ce moyen, on sait déjà d'avance ce que le croyant ne sait que par la rencontre avec Jésus-Christ, et absolument pas autrement. Sans doute, une compréhension du mot « Dieu » et de la réalité qu'il désigne a déjà été présupposée en un sens bien déterminé par Jésus lui-même comme par le christianisme primitif, et doit être présupposé par nous, d'une façon ou d'une autre, quand on s'interroge sur Jésus. Ce qu'il y a de proprement nouveau, de contingent dans l'événement historique, et surtout dans l'histoire de Jésus, se met cependant en travers de toute connaissance antérieure, et aussi de la connaissance antérieure de Dieu, qui doit nécessairement être présupposée. C'est pourquoi Dieu rencontre l'homme en Jésus comme il ne le fait nulle part ailleurs. Et il ne suffit pas de concevoir ces différences de particularité historique comme étant de simples différences de degré. La manière particulière dont en Jésus est historiquement rencontrée la réalité de Dieu, sur laquelle l'idée générale de Dieu et le mot Dieu s'y référant ne font à proprement parler que poser une question, ne peut être découverte que par la particularité historique de Jésus lui-même. Je crois que c'est suffisant. Alors, ça, on comprend comment on peut faire une théologie d'en bas, à partir de là. Et toute la question est de savoir si je peux atteindre Jésus comme Dieu historiquement. Et vous vous souvenez, quand on voit dans Saint Jean, subitement, la découverte de Jean-Baptiste par rapport à l'agneau de Dieu. Le passage de la connaissance historique, humaine, que Jean-Baptiste pouvait avoir de Jésus et qu'il devait avoir. Et puis, subitement, voici l'agneau de Dieu. Il y a un passage irréductible. Remarquez que tous les convertis, ceux qui sont nés dans le christianisme, comme on dit, c'est-à-dire qui ont été baptisés quand tout jeunes, alors sont habitués à vivre. Mais ceux qui sont convertis notent tous cette espèce de passage subit à une connaissance. Ils ont entendu parler de Jésus, et puis subitement, c'est tout autre. Et nous pouvons, chacun d'entre nous, dans la mesure où nous développons notre philosophie, c'est du reste un des avantages de développer la philosophie. Parce que dans la mesure où vous développez votre philosophie, vous pouvez comprendre que la connaissance philosophique et la connaissance de la foi, c'est tout autre. Il y a quelque chose d'irréductible. Le jugement d'existence du croyant et le jugement d'existence du philosophe est tout autre. Il n'y a pas cette continuité. C'est ça qu'il voudrait. On voit très bien. Cette continuité qu'il voudrait avoir. Alors, il y a là quelque chose qui, pour nous, je crois, est très important à bien saisir et à bien comprendre. Alors, il y a ensuite, mais je ne vais pas le voir maintenant, mais il faudrait y revenir, un chapitre qui me semble aussi très intéressant pour nous. Christologie et sotériologie. Nous verrons ce problème-là. Parce que c'est intéressant à bien préciser, parce que c'est la question de la mission du Christ et de ce qu'est Jésus. Alors, si vous voulez, maintenant, nous allons essayer d'entrer dans saint Thomas. Ça nous met un peu le désir de considérer que la théologie d'en haut, n'est-ce pas, est périmée. C'est important de le savoir. Et d'essayer de revenir à quelque chose de périmé qui, je crois, demeure pour nous vrai. Je ne dis pas, je le redis, parce que je crois ça très important. Si nous allons à saint Thomas, c'est pour nous former. C'est pas pour le communiquer aux autres. Si à communiquer aux autres, c'est avant tout et en premier lieu ce que le Concile nous demande, une théologie qui est une théologie de l'économie divine. Alors ça, oui, ça on peut le communiquer. C'est très communicable et on a besoin de ça. Mais pour pouvoir faire cela d'une façon qui soit vraie, nous avons besoin de comprendre ce que représente ce que saint Thomas nous dit. Alors évidemment, vous me diriez, vous devriez nous donner cette théologie. Et puis nous, nous lirons le Verbe incarné, oui. Mais je crois qu'on a besoin aussi de l'étudier un peu ensemble. Ça nous aide à pénétrer davantage dans la pensée de saint Thomas. Alors, comprenons bien. Saint Thomas, dans le début, dans le prologue, nous dit ceci. Il faut toujours lire les prologues de saint Thomas, ils sont très importants. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en délivrant son peuple de ses péchés, ainsi que l'annonçait l'ange, s'est découvert à nous comme la voie de la vérité, par laquelle il nous est désormais possible de parvenir à la résurrection et à la béatitude de l'immortelle vie. Vous voyez que tout de suite, saint Thomas montre le Sauveur. Donc, c'est la mission du Christ. C'est ça qui finalise tout. C'est ça qu'on doit voir tout le temps. C'est l'étude du Sauveur que nous regardons. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en délivrant son peuple de ses péchés. C'est comme ça que saint Thomas commence son traité. On l'oublie trop, vous voyez. On oublie trop que c'est cette vision-là qui commande toute la vision, toute la grande théologie de saint Thomas sur le Verbe incarné. On insiste tellement sur le Verbe incarné qu'on s'arrête au Verbe incarné. Et on oublie qu'il nous dit ça, « Quia salvator noster, Dominus Jesus Christus ». Donc c'est le salvator, c'est le sauveur qu'on regarde. Et c'est ce sauveur qu'on veut essayer de comprendre. Parce que la foi nous fait regarder Jésus comme notre rédempteur, comme notre sauveur. C'est cela qui est premier dans la foi. C'est Jésus ressuscité. C'est Jésus qui est passé par la croix et qui est ressuscité. Pour achever l'exposé théologique que nous avons entrepris. C'est aussi très intéressant de bien voir cela. Ad consummationem totius theologiae negocii. Le négoce théologique. Alors vous voyez bien tout ce qu'il a fait avant, tout ce négoce théologique qu'il a fait avant. Alors la consummationem, tout s'achève dans ce mystère de la théologie du Sauveur. Donc, c'est l'achèvement de cet exposé théologique qui a été entrepris, qui a été commencé. Il apparaît donc nécessaire, après avoir traité de la fin ultime de la vie humaine, des vertus, des vices, de considérer maintenant le sauveur des hommes en lui-même et dans les bienfaits dont il a gratifié le genre humain. C'est vraiment le traité du sauveur. C'est le traité du Sauveur que nous regardons, au point de vue théologique, et que nous essayons de comprendre. Et c'est pour comprendre le Sauveur que nous regardons le Verbe incarné. Nous envisageons donc, d'abord, le Sauveur lui-même. C'est ce qu'on va regarder. C'est intéressant, vous voyez, trois fois saint Thomas dit « Salvator », hein ? Trois fois. Et je crains que très très souvent, on ait un peu oublié ça, alors on fausse la perspective. Très important, c'est pour ça que les prologues sont ça demande un flash, vous voyez, une lumière sur laquelle il faut regarder tout le reste. C'est ça. Trois fois, Salvator, le Sauveur. Nous envisageons d'abord le Sauveur lui-même, puis ses sacrements par le moyen desquels nous sommes sauvés, enfin, la consommation de la vie immortelle à laquelle il nous fait parvenir par la résurrection. Donc saint Thomas annonce les trois grands aspects de la théologie qui achèvent tout l'exposé de la théologie, le mystère du Sauveur, le mystère des sacrements, le mystère des fins dernières. Puisque c'est le mystère, ce qu'on appelle ordinairement le mystère. Enfin, la consommation de la vie immortelle. Donc la béatitude, la Jérusalem céleste. la Jérusalem céleste, les noces avec l'agneau et la vision béatifique, mais à laquelle il nous fait parvenir par la résurrection. Donc c'est vraiment la Jérusalem céleste. Au sujet du Sauveur, quatrième fois, ici c'est répété ici, une quatrième fois un peu plus loin. Donc au sujet du Sauveur, il nous faudra étudier premièrement le mystère de l'incarnation, qui est le mystère d'un Dieu fait homme pour notre salut. En second lieu, la vie et les souffrances du Dieu incarné. Quatre fois le Sauveur, et l'incarnation est quelque chose de très important, mais c'est vu à l'intérieur de cette vision du Sauveur. Donc c'est le traité théologique du Sauveur qu'on doit avoir. Alors, un mot quand même sur ce point de vue de la consommation, de ce que représente le négoce théologique. Vous savez bien que ça a été très discuté au moment de la guerre, la dernière, à l'Institut catholique de Paris. Et c'était très intéressant, du reste, de voir cela. La grosse critique qui a été faite à saint Thomas à ce moment-là, c'est de mettre le traité de l'incarnation, comme on disait, non pas le traité du Sauveur, le traité de l'incarnation en dernier lieu. Et on prétendait qu'une théologie, qui soit une théologie chrétienne, devrait commencer par le traité du Christ, par le traité du Christ remonter jusqu'au Père et à la très sainte Trinité, et découvrir l'unité de Dieu. Autrement dit, reprendre l'ordre de la somme d'une façon totalement différente. Je vous le dis parce que ce sont des objections qu'on entend tout le temps, qui sont encore actuelles. À ce moment-là, ça avait été particulièrement fort, et c'est pour ça que ça a fait un petit peu de bruit. Alors, je crois qu'il s'agit de bien comprendre. Autre est la théologie, autre la foi. Autre la théologie scientifique et la théologie tout court. Je crois que c'est deux distinctions-là qu'il faut faire. Au point de vue de notre foi, c'est l'adhésion au Christ qui est première. Nous croyons dans le Christ. Le mystère de l'Annonciation le montre parfaitement. La foi chrétienne, c'est quand Marie reçoit le don que le Père fait de son Fils. Et c'est le premier moment de la foi chrétienne. Quelle a été la conscience que Marie a eue de la divinité du Fils du Très-Haut ? On peut discuter cela, mais il y a eu quand même, dans la foi de la Très Sainte Vierge, à ce moment-là, une adhésion, un don que le Père lui faisait de son Fils. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la foi chrétienne commence explicitement comme foi chrétienne. Donc la foi chrétienne, c'est vraiment recevoir le don que le Père nous fait de son Fils. Et par là, remonter jusqu'au Père, et par là, comprendre tout le mystère de la très sainte Trinité et de l'unité de Dieu, et le mystère de l'Église. C'est très vrai, au point de vue de la foi. La théologie, c'est autre chose. La théologie, c'est une réflexion sur la foi, où l'on met notre intelligence au service de la foi. Donc, c'est une science et une sagesse. Ça implique un ordre sur lequel on doit réfléchir. S'il s'agit de la théologie scientifique, il s'agit de regarder en premier lieu le mystère de Dieu. Je dis ça, c'est parce qu'au fond, Pannenberg, en grosse partie aussi, vous voyez, il y a ces objections derrière. On regarde le traité de la très sainte Trinité avant le traité du Christ. Oui, c'est vrai. En théologie scientifique. Parce qu'il faut, au point de vue de la théologie scientifique, puisqu'on cherche la plus grande intelligibilité qu'on peut avoir du commodo de Dieu, du commodo non sit, comme dit saint Thomas, la plus grande intelligibilité qu'on peut avoir. Or, la plus grande intelligibilité que je peux avoir, c'est d'abord de Dieu un, dans son essence, dans sa nature. C'est la simplicité de Dieu. C'est ça que je peux avoir en première intelligibilité. La plus grande intelligibilité que j'ai, c'est de Dieu dans son unité. Puisque, lorsqu'il s'agit de la très sainte Trinité, l'intelligibilité que j'ai est négative. Avant tout, ce n'est pas une intelligibilité nouvelle. Tandis que quand il s'agit de Dieu, il y a quand même une certaine intelligibilité du commodo, non sit. Et c'est pour ça que tout repose en premier lieu sur cette connaissance de théologie scientifique que je puis avoir de Dieu. Puis le mystère de la très sainte Trinité, pour mieux comprendre, au point de vue de la foi, cette unité dans la Trinité, cette unité et les trois personnes. Puis je regarde le mystère de la création, ce qui est tout à fait normal, pour comprendre ce que c'est que l'homme. Et je regarde l'homme dans la lumière même du Créateur. Et puis ensuite, on comprend très bien qu'on essaie de comprendre comment l'homme remonte vers Dieu. C'est le mystère de l'Imago Dei. Pour saisir de la manière la plus profonde le mystère du Sauveur, puisque le mystère du Sauveur, c'est le mystère de Dieu fait homme, le mystère du Verbe devenu chair, il exige donc, pour que je puisse dire quelque chose au point de vue de la théologie scientifique du mystère du Verbe devenu chair, que j'essaie de comprendre le mieux possible le mystère de Dieu et le mieux possible le mystère de l'homme. Je ne connais pas, vous voyez, au point de vue de l'intelligibilité. Et c'est pour ça que ça arrive nécessairement en troisième lieu. Ça ne peut pas être autrement. Puisque je peux avoir une intelligibilité du mystère de Dieu et une certaine intelligibilité du mystère de l'homme, je dois nécessairement les regarder en premier lieu. Dans une théologie mystique, doit-on regarder en premier lieu le mystère de Dieu dans son unité, puis le mystère de la très sainte Trinité? Je ne crois pas. Dans une théologie mystique, je dois, au contraire, voir la grande révélation qui nous est faite du mystère du Père à travers le mystère de la croix, sagesse. Et donc une théologie mystique doit regarder en premier lieu cette révélation de la sagesse qui se fait à la croix et qui en dernier lieu se fait par le cœur du Christ. Nous y reviendrons là-dessus. Donc je n'ai pas besoin de développer maintenant. Mais c'est simplement pour montrer qu'en théologie mystique, c'est très vrai, le Christ est premier. Et le Christ sauveur. Le Christ crucifié et glorifié. Il est premier. Dans une théologie de l'économie divine, dans une théologie de l'économie divine ou biblique, c'est pas ce qui est premier, c'est le mystère du Christ, non? La pédagogie de Dieu commence par le mystère de Dieu créateur et par la grande exigence de l'adoration. C'est la pédagogie de Dieu que Dieu a donnée à son peuple. Et ce n'est qu'après qu'il a révélé le mystère. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir que cette objection qu'on met à saint Thomas, il y a une part de vrai, mais si je regarde la théologie de l'économie divine, si je regarde la théologie scientifique, je vois que ce n'est pas juste. Si je me place d'un point de vue pratique, alors oui. D'un point de vue pratique, c'est évident, c'est le mystère du Christ qui est donné en premier lieu, et c'est lui que je dois regarder en premier lieu. Donc ceci, c'est pour nous rappeler que l'ordre que prend saint Thomas en théologie scientifique est un ordre que nous devons maintenir. Si on comprend ce que c'est que la théologie scientifique, hein, ce qui n'est pas commode. Mais si on comprend ce que c'est que la théologie scientifique, c'est-à-dire essayer, à partir de la parole de Dieu, de mettre toute notre intelligence de sagesse philosophique au service de la foi. Donc, maintenant, entrons, si vous voulez, toujours pour regarder l'ordre, l'étude du mystère de l'incarnation. Donc, vous voyez, on a annoncé trois études au sujet du Sauveur. Il faut d'abord regarder le mystère de l'incarnation, qui est le mystère du Dieu fait homme pour notre salut. Et en second lieu, le mystère de la vie et les souffrances du Dieu incarné. Alors, c'est aussi important de regarder cet ordre. Vous voyez que tout de suite, c'est l'être et la vie. Je vous ai déjà dit qu'il était très important pour nous de comprendre que dans toute la somme théologique, vous avez cette grande division constante entre le point de vue de l'être et le point de vue de la vie. Regardez dans les manières d'exister de Dieu, pour ne pas dire attributs divins, les manières d'exister de Dieu. Vous avez d'abord toute la perspective de la manière d'exister au niveau proprement de l'être. Puis la manière d'exister au niveau de la vie. Dans la très sainte Trinité, c'est l'ordre inverse, c'est la vie et l'être. Et vous retrouvez ici, dans le mystère du Sauveur, première étude de ce qu'est Jésus au point de vue de son être, le mystère de l'incarnation. Et la seconde partie, la vie. Et comme cette vie s'achève par la croix, la vie et les souffrances du Dieu incarné. C'est normal. Il faut regarder le mystère de Jésus dans sa profondeur première, le mystère du Verbe devenu chair. Et regarder ensuite tout le mystère de la vie. Ça ne veut pas dire que la seconde partie est moins importante que la première. Ça veut dire tout simplement que dans un ordre de théologie scientifique, on regarde toujours l'être en premier lieu pour connaître ce que c'est que la vie. Je vous l'ai dit en philosophie, nous ne pouvons pas connaître parfaitement ce que c'est que la philosophie du vivant si on n'a pas vu avant le point de vue de la philosophie de la nature et le point de vue de la philosophie première. On ne peut pas connaître autrement, parce que la vie implique nécessairement quelque chose de complexe pour nous, qui implique l'être et le devenir. Et donc, il faut nécessairement regarder l'être et le devenir pour comprendre ce que c'est que la vie. Et donc, on comprend très bien que pour essayer de saisir l'acte de la rédemption, par où Jésus est notre Sauveur, il faut regarder celui qui réalise cet acte, ce qu'il est en lui-même. Alors, l'étude de l'incarnation comporte trois parties. Les harmonies ou convenances du mystère. C'est les De conveniencia incarnationis. On a traduit, vous voyez, les harmonies ou convenances. En réalité, c'est au sujet des convenances. De conveniencia incarnationis ipsius. Question très importante, très difficile, très délicate, qui met en présence des quantités de choses, puisqu'il s'agit d'un ordre de sagesse. Vous voyez, là, on va retrouver le lien avec la théologie de l'économie divine. D'une certaine manière, on pourrait dire que cette question, c'est vraiment par rapport à l'économie divine, qu'on peut la traiter, c'est pas autrement, et l'économie de la sagesse de Dieu. Donc, la convenance de l'incarnation. Deuxièmement, le mode d'union du Verbe incarné. Et troisièmement, tout ce qui suit cette union. Saint Thomas aime bien les divisions toujours par trois. C'est pas la dialectique hegelienne, mais c'est quelque chose c'est curieux du reste, ça arrive très souvent cela. C'est pas factice, hein, c'est une structure de pensée qu'on retrouve comme cela, constamment. Les convenances, nous allons voir ce que c'est, on appelle ça les motifs de l'incarnation après, mais ça va pas très bien. Les convenances de l'incarnation, je crois que c'est mieux que le motif de l'incarnation, surtout aujourd'hui, n'est-ce pas, la motivation. Alors ça ne va plus du tout les motifs de l'incarnation, c'est les convenances. C'est la convenance, c'est-à-dire comment pouvons-nous saisir ce qui donne la signification plénière du mystère de l'incarnation. Vous voyez que c'est déjà résolu par avance, puisque c'est le traité du Sauveur. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Alors, beaucoup de questions dégringolent. Et toutes les questions scolastiques qui ont été posées après ont oublié que saint Thomas avait commencé par le Sauveur. C'est le traité du Sauveur. Et dans le traité du Sauveur, on traite d'incarnation. C'est très important de comprendre ça. Donc, la convenance de l'incarnation se fait en fonction du Sauveur. C'est évident, puisque le traité du Sauveur est antérieur. Puis, le mode d'union du Verbe incarné, c'est...